Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour en finir avec la peur des lettres et des chiffres, un texte de Marie-Ève Fournier paru le 24 novembre 2024 dans la presse. On n'en peut plus de tous ces acronymes, sans cesse plus longs, qui se sont imposés dans nos vies tels des mots, ou mots, M-A-U-X, nécessaires. Mais l'important n'est pas de savoir la signification de chacune des lettres. Comprendre la nature de ce qui se cache derrière l'ensemble des caractères suffit généralement. En matière d'épargne, toutefois, il faut se donner la peine de s'informer sur le fonctionnement des 6 régimes désignés par un acronyme ou un simple sigle pour prendre des décisions éclairées. REER, CELI, REEE, CELIAP, REEI, RVER. Sauriez-vous expliquer à votre voisin de quoi il s'agit? Une question similaire, quoique moins exigeante, a été posée par Léger à 1000 Québécois pour le compte d'Éduc'Épargne et de la Chambre de la Sécurité financière. On voulait seulement déterminer le niveau de notoriété des divers régimes d'épargne. Résultat, le REER et le CELI sont connus de la vaste majorité, mais encore moins que Taylor Swift. On ne peut pas en dire autant du REEE, qui existe pourtant depuis près de 30 ans et qui s'avère particulièrement payant pour les parents. Surprise! Le CELIAP, créé au printemps 2023, n'est pas si loin derrière. En scrutant les résultats dans le détail, on constate que c'est grâce aux 18-34 ans qui connaissent ce régime dans une proportion de 60%. Ce n'est pas agréable à écrire, mais l'étude démontre des différences majeures entre les femmes et les hommes. On est loin de la marge d'erreur. Tandis que 73% des hommes croient avoir de bonnes connaissances des régimes d'épargne, seulement 55% des femmes en disent autant. C'est presque 20 points d'écart. Êtes-vous en mesure de bien différencier les régimes d'épargne? Les hommes ont répondu oui dans une proportion de 75%, ce qui se compare à 57% chez les femmes. Ces résultats sont déconcertants. Soit les femmes s'y connaissent beaucoup moins que les hommes, soit elles se sous-estiment fortement, ce qui dénote un manque de confiance, ma foi, assez cliché. C'est possiblement un mélange des deux. Quoi qu'il en soit, il faut que les femmes trouvent le moyen d'améliorer leur littératie financière pour être en mesure de prendre de bonnes décisions, même si elles ont moins de temps libre que les hommes. La planificatrice financière Nathalie Bachand relativise l'ampleur des connaissances à acquérir pour prendre ses affaires en main. « Ce n'est pas compliqué d'épargner, dit-elle. Les 3 principaux véhicules qu'il faut connaître sont le REER, le CELI et le REEE, si tu as des enfants. Que tu mettes ton argent dans l'un ou l'autre, ou sur ton hypothèque au bout de la ligne, c'est de l'épargne, et c'est bien correct. » Ce n'est pas la fin du monde de se tromper. La pire chose à faire est de ne pas investir sous prétexte qu'on ne s'y connaît pas assez. Il faut convaincre les femmes qu'elles n'ont pas besoin d'une maîtrise en finance pour investir, insiste Nathalie Bachand. Et il ne faut pas éviter d'aller consulter un planificateur financier parce qu'on a peur de ne rien comprendre. Si son discours sonne comme du japonais, il faut aller voir ailleurs. On peut très difficilement changer de médecin de famille, mais on peut magasiner son conseiller financier. Beaucoup de Québécois n'ont pas l'habitude d'aller voir un professionnel des finances sur une base régulière, comme ils le font pourtant pour leur dentition ou leur véhicule. Si on fait preuve de négligence pendant 40 ans, il se peut qu'on se heurte à un mur au moment d'envisager la retraite. Prenez rendez-vous. Il y a moyen d'apprendre les bases de la finance personnelle sans que ce soit une torture. Annick Quetcheux-Gameau, fondatrice de Code F, une organisation qui offre des services d'éducation financière, suggère de regarder « L'art d'être riche » sur Netflix, une série remplie de conseils de base. Si on préfère les balados, ce n'est pas le choix qui manque. De nouveaux livres écrits de manière accessible sortent constamment. Prenez le temps d'y jeter un coup d'œil. Code F et Éduc'Épargne proposent des formations. Le populaire groupe sur Facebook, L'argent ne dort jamais, permet de découvrir des concepts clés, mais il faut être prudent car la qualité des conseils est variable. L'intention peut être bonne, mais les réponses aux questions ne sont pas toujours exactes ou adéquates pour notre situation personnelle. Nathalie Bachand propose de réfléchir à la façon dont on occupe son temps. On peut passer 10 heures sur l'Internet pour comparer les frigos, mais on ne passerait pas 1 heure par année pour comprendre les finances personnelles? J'aime l'idée avancée par l'Institut de planification financière, même s'il prêche pour sa paroisse. Il suggère que les services de planification financière soient inclus dans les programmes d'aide aux employés, PAE, des entreprises. Certains les offrent déjà, ce qui est peu connu, mais on gagnerait à ce que ce soit plus répandu. Je suis convaincu que ces services seraient utilisés vu la quantité monstre de questions posées sur les réseaux sociaux. Comme l'a déjà rapporté ma collègue Isabelle Dubé, 74% des femmes veuves ou divorcées disent avoir eu des surprises négatives au moment de la rupture ou du décès de leur conjoint, si bien qu'elles regrettent de ne pas s'être impliquées davantage dans la prise de décision. Il existe trop d'outils pour que ça continue ainsi. Hausse du RRQ de 2,6% en janvier. Si vous faites partie des 2,2 millions de Québécois qui bénéficient du régime de rente du Québec, le montant versé dans votre compte de banque augmentera de 2,6% à compter de janvier 2025. Ainsi, la rente de retraite moyenne des personnes de 65 ans passera de 682 $ à 700 $ plus 18 $ par exemple. Chaque année, Retraite Québec ajuste les rentes en fonction de l'indice des prix à la consommation. Étant donné la poussée inflationniste des dernières années, Retraite Québec avait augmenté les rentes de 4,4% en 2024, de 6,5% en 2023 et de 2,7% en 2022. C'était, pour en finir avec la peur des lettres et des chiffres, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.
Pseudoscience, des influenceurs douteux sur la santé, un texte d'Isabelle Burguin, paru le 8 novembre 2024 dans L'Express. Il faut se méfier des marques à la mode lancées par les influenceurs à l'information peu fiable. Pour une rare fois, à l'Université McGill, on parlait d'une membre de la famille Kardashian et de sa marque de bien-être aux prétentions pseudo-scientifiques. C'est sur cette citation de Joe Schwartz, directeur de l'Organisation pour la science et la société, que débutait le récent symposium annuel de sciences publiques Trottier. Celui-ci s'intéressait cette année aux tendances scientifiques déconcertantes, comme les suppléments alimentaires ou l'Ozempic. Effet à long terme? Ce dernier médicament, louangé par des vedettes, vendu sous prescription, a été présenté ces dernières années comme un produit miracle pour maigrir. Il imite le GLP-1 qui cible la glycémie, le sucre dans le sang, a expliqué la professeure émérite au département de physiologie et de médecine de l'Université de Toronto, Patricia Brubaker. Celle dont la carrière a été dédiée à la biologie des hormones de l'intestin a toutefois rappelé que les médecins ignorent encore les effets à long terme de la prise régulière de ce médicament chez les personnes en léger surpoids et chez les jeunes. Elle a détaillé la science d'une protéine intestinale issu du pancréas, le glucagon, dont l'un des acides aminés, ou peptides, est devenu tendance, le fameux GLP-1. Cette dernière permet, entre autres choses, de jouer sur l'appétit en stimulant la sécrétion d'insuline. C'est dans ce contexte que cette pilule a pu être utilisée comme coupe-faim pour aider les patients atteints d'obésité sévère et morbide. Imitation et escroc. Mais a-t-on raison de lui accorder autant d'attention? La chercheuse prône d'attendre les résultats d'études cliniques avant de faire entièrement confiance à ce type d'injection pour maigrir. C'est un traitement qui coûte cher et on ignore encore s'il est sécuritaire chez les jeunes et les femmes enceintes. Il provoque de la nausée, de la diarrhée, de la constipation et d'autres malaises intestinaux d'importance, rapporte-t-elle. En faisant allusion à une des Kardashian, la chercheuse rappelle qu'il faut se méfier des imitations et des escrocs. Cette influenceuse vend un supplément qui prétend lui aussi faire maigrir rapidement et sans douleur en imitant l'Ozempic. Il y a beaucoup de faux produits, certains contaminés avec des bactéries et d'autres qui peuvent donner des réactions allergiques. Il importe donc de se procurer le vrai produit à la bonne source, pas sur Internet. Pilule pour améliorer la clarté. Chose certaine, entre les Brazilian Fat Burner et autres coupe-faim, les suppléments alimentaires promettant de perdre des kilos sont nombreux. Ce ne sont pas des produits approuvés par des organismes de santé, et c'est très difficile d'avoir aussi la liste précise des ingrédients, résume le professeur agrégé de médecine à l'École de médecine de Harvard et expert sur la sécurité des suppléments alimentaires, Peter Cohen. Vitamines, produits botaniques, acides aminés, protéines, extraits glandulaires, probiotiques. Cette longue liste s'accompagne d'allégations qui vont parfois jusqu'à prétendre soigner, en évitant toutefois de le mentionner directement, puisque ce ne sont pas des médicaments approuvés. Comme ces pilules pour améliorer la clarté, qui sont présentées comme une façon de prévenir l'Alzheimer. Inutile de dire qu'il y a peu de bénéfices avérés. Pour se faire leur propre opinion, relève l'expert, les gens doivent regarder des sources fiables, des certifications valables et jeter un œil aux détails des études quand il y en a. Fèves de moukouna et autres cachets de mélatonine. Il prend pour exemple les fèves de moukouna originaires d'Afrique et d'Asie tropicale, vantées pour leurs propriétés antidiabétiques, ou bien les cachets de mélatonine vendus en pharmacie au rayon des produits naturels. Le contenu des flacons diffère trop souvent de ce qui est inscrit, les quantités ne sont pas les bonnes, l'ingrédient principal s'avère peu actif, on retrouve de la contamination bactérienne, énumère-t-il. Les lois américaines et canadiennes tolèrent souvent en pharmacie des marques non appuyées sur des études scientifiques. S'ils ne sont pas catalogués comme des médicaments, ces produits ont juste à faire la preuve qu'ils sont sans danger. La FDA, la Food and Drug Administration, l'agence américaine chargée de la surveillance des aliments et des médicaments, n'est malheureusement pas capable de les faire enlever des tablettes même si les produits sont reconnus inefficaces, rapporte Cohen, qui a publié dernièrement une étude sur le sujet. Et pendant ce temps, sur les réseaux sociaux, les influenceurs vantent toujours plus de produits pseudo-scientifiques aux allégations trompeuses. C'était « Pseudo-science, des influenceurs douteux sur la santé », un texte d'Isabelle Purguin, paru le 8 novembre 2024 dans l'Express.
Santé cardiovasculaire, connaissez-vous les facteurs de risque propres aux femmes? Un texte de La Presse, paru le 8 mars 2024 dans La Presse. Lorsque vous entendez les mots « crise cardiaque », l'image qui vous vient spontanément à l'esprit est-elle celle d'un homme? Saviez-vous que l'accident vasculaire cérébral, AVC, touche les femmes de façon disproportionnée? À chaque étape de la vie de ces dernières, les risques associés à la santé cardiaque et cérébrale varient, évoluent, voire s'amplifient au fil du temps, et ils peuvent être différents de ceux des hommes. Les femmes doivent connaître ce que c'est un facteur de risque et savoir comment elles peuvent l'aborder pour agir en amont, avant que la maladie ne se développe, nous dit Dr Christine Pacheco, cardiologue à l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil et cofondatrice de CardioF, premier centre intégré de santé cardiovasculaire de la femme au Québec. Certes, il existe des facteurs de risque sur lesquels les gens n'ont aucun contrôle comme l'âge et l'historique familial, mais certains d'entre eux sont liés aux habitudes de vie. La sédentarité, le tabagisme, une mauvaise alimentation, la consommation excessive de drogues et ou d'alcool, le stress. D'autres facteurs de risque comme le diabète, l'hypertension, le cholestérol et la dépression peuvent être contrôlés ou traités. Jusqu'à 80 % des maladies du cœur et des AVC précoces peuvent d'ailleurs être évitées en adoptant des habitudes de vie saines. Le saviez-vous? Les risques de maladies du cœur et d'AVC varient tout au long de la vie d'une femme. Chaque étape représente une occasion de faire de la prévention, souligne la docteure Pacheco. La puberté. Selon certaines études, l'arrivée précoce, avant 12 ans, ou tardive, après 14 ans, des menstruations chez la jeune fille, pourrait avoir une incidence sur le risque de développer plus tard une maladie cardiovasculaire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut contrôler, mais c'est un marqueur qu'on peut identifier tôt dans la vie pour possiblement faire plus de surveillance, explique la cardiologue. L'âge adulte. À surveiller pour les femmes de plus de 35 ans qui présentent déjà d'autres facteurs de risque, notamment le tabagisme et l'hypertension. Il est possible que l'utilisation de contraceptifs hormonaux à base d'estrogène augmente le risque de développer un caillot sanguin dans les artères ou dans les veines, ce qui pourrait entraîner une crise cardiaque ou un AVC. Selon la docteure Christine Pacheco, il est essentiel d'en discuter avec son médecin. Il faut prendre en considération tout l'amalgame de facteurs de risque dans un tel cas pour évaluer si c'est le bon contraceptif selon la situation. La grossesse. La grossesse représente un effort physiologique important. Notre débit et notre fréquence cardiaque augmentent pour les besoins du bébé grandissant et ça peut démasquer des maladies cardiaques existantes, indique la spécialiste. Tout au long de la grossesse, des troubles ou des complications peuvent survenir et influencer le risque de maladies cardiovasculaires. Pensons ici à l'hypertension artérielle ou au diabète gestationnel. Les femmes enceintes qui souffrent d'hypertension artérielle sont de 2 à 3 fois plus susceptibles de développer une maladie du cœur ou un AVC. Elles sont 2 fois plus à risque de mourir d'une maladie cardiovasculaire avant l'âge de 70 ans. La ménopause et au-delà. Avant la ménopause, les femmes sont moins touchées par les maladies cardiovasculaires. On pense que l'estrogène a un effet protecteur, mentionne la docteure Pacheco. Cette protection s'estompe avec les changements hormonaux qui surviennent à la ménopause. D'autres facteurs de risque viennent toucher aussi plus durement les femmes à ce stade de leur vie. L'hypertension artérielle, par exemple, est plus présente chez les femmes que chez les hommes à partir de l'âge de 65 ans et moins bien contrôlée, fait valoir la cardiologue. Pourtant, lorsqu'on la contrôle, on sait qu'on réussit à éviter des conséquences dévastatrices, comme un AVC ou un infarctus. D'autres inégalités peuvent expliquer le risque accru en matière de santé chez les femmes. La comédienne, chroniqueuse et ambassadrice de Cœur plus AVC, Julie Dupage, en a elle-même fait l'expérience. À 39 ans, elle a subi une ablation par cathéter pour traiter une arythmie avec laquelle elle vivait depuis l'adolescence. La situation s'est empirée après ma deuxième grossesse. Je ne pouvais plus faire d'exercice physique sans être essoufflé et épuisé, et j'avais de la difficulté à dormir, relate-t-elle, ajoutant « J'ai dû me battre pour être prise au sérieux ». C'est une cardiologue qui a finalement été à l'écoute des symptômes que vivait Julie Dupage depuis de nombreuses années. « J'ai pleuré de joie quand j'ai vu pour la toute première fois mon cœur battre d'une façon régulière à l'écran », se rappelle la comédienne. « Aujourd'hui, mon cœur est en parfaite santé. » Le savoir est le pouvoir. Plus nous connaîtrons et comprendrons nos facteurs de risque, plus nous pourrons prendre soin de notre santé et plus nous pourrons en parler de manière éclairée avec nos amis, notre famille et notre médecin, affirme Julie Dupage. C'était « Santé cardiovasculaire. Connaissez-vous les facteurs de risque propres aux femmes ?» Un texte de La Presse, paru le 8 mars 2024 dans La Presse.
Des ailes pour courir plus vite. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 novembre 2024 dans La Presse. Les dinosaures se seraient d'abord servis de leurs ailes pour courir plus vite. C'est la théorie d'une étude montréalaise sur les ancêtres des oiseaux. Empreinte révélatrice. Une piste fossile vieille de 106 millions d'années, découverte en Corée du Sud, montre la démarche d'un des ancêtres des oiseaux modernes. Les premières empreintes sont rapprochées, signifiant qu'il marchait lentement, à environ 2 km par heure. Mais plus loin, l'espace entre les traces de pattes s'allonge à 30 cm. Comme ce petit dinosaure mesurait seulement 5 cm à la taille, cela signifie qu'il courait à 40 km heure. Selon l'auteur principal de l'étude, Hans Larsen, de l'Université McGill, ce dinosaure n'aurait jamais pu atteindre cette vitesse en utilisant uniquement ses muscles. Ce serait comme si un moineau courait aussi vite qu'Usain Bolt, dit-il. Les os de ses jambes et de sa hanche se seraient brisés avec une telle extension. Les muscles n'étaient pas non plus assez forts. Il fallait qu'il ait un autre mode de propulsion que ses deux pattes. C'est la première preuve que des dinosaures à plumes se servaient de leurs ailes pour courir plus vite. L'étude a été publiée dans la revue universitaire PNAS. Cousin du Vélociraptor. Comment, M. Larsen, sait-il qu'il s'agit d'un dinosaure et non d'un oiseau, les premiers étant apparus il y a 150 millions d'années? Ce sont des empreintes à deux doigts, et pendant tout le Crétacé, il y a 145 à 66 millions d'années, les oiseaux avaient trois ou quatre doigts, répond M. Larsen. Il sait aussi qu'il s'agit d'un Dromaeosauriformipes rarus, un microraptor, cousin du Vélociraptor des films Jurassic Park, parce qu'aucun autre groupe de dinosaures n'avait deux doigts. Il s'agit d'un des plus petits dinosaures connus. Boue séchée en Corée du Sud. Les empreintes ont été découvertes sur une plaque préservée de boue séchée trouvée près de Jijun en Corée du Sud. On voit tout. Même les traces de gouttes d'eau et d'insectes, souligne M. Larson. L'absence d'autres empreintes exclut que l'animal ait utilisé ses pattes d'en avant pour aller plus vite. M. Larson est spécialiste de l'évolution des squelettes, des jointures et des musculatures. Alex Desecchi, co-auteur de l'étude venant de l'Université d'État du Dakota, m'a parlé de ces empreintes quand elles ont été décrites dans Scientific Reports en 2018. Il me disait qu'il devait y avoir une erreur. Un biplan sur quatre pattes. Dromaeosauriformes, rarus, avait des ailes sur ses quatre pattes. Comme il ne pouvait pas bouger les ailes autant que les oiseaux d'aujourd'hui, ça lui donnait l'air d'un biplan. Ce micro-raptor aurait pu faire des bonds de 100 à 200 mètres. Un chercheur, dans les années 1990, avait suggéré cette possibilité. Nous avons confirmé que c'était possible avec des modèles de squelettes, mais c'est la première preuve fossile. La prochaine étape consistera à reconstruire un modèle numérique du squelette du micro-raptor pour simuler la marche, la course et les bonds. Évolution. Cette découverte montre qu'il y a eu plusieurs évolutions du vol animal. À l'origine, on avait l'idée que des dinosaures sont montés dans les arbres et ont commencé à parplaner, dit M. Larson. Il y a plus de diversité que ce que nous pensions. Les dinosaures arboricoles planeurs ont existé, mais ils étaient très rares. Et ils ne sont pas les ancêtres des oiseaux comme les micro-raptors. Comme ce micro-raptor est apparu avant les oiseaux, il y a 164 millions d'années, il pourrait être celui qui a inventé le vol. Les reptiles volants, comme le ptérodactyle, sont apparus plus tard, il y a 150 millions d'années. En savoir plus. 75 cm. Hauteur à la taille du Vélociraptor, popularisé par les films Jurassic Park. Source, Musée américain d'histoire naturelle. C'était « Des ailes pour courir plus vite ». Un texte de Mathieu Perrault, paru le 14 novembre 2024 dans La Presse.